France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La vie sans réseaux sociaux des collégiens du Puy-de-Dôme l'expérimente depuis un an, les premiers à le faire en France. Résultat très prometteur. Gros plan dans un instant, c'est une journée spéciale sur Inter. Après Nestlé, le groupe Lactalis, concerné par des rappels de lait infantile, et toujours pour la même raison. Le Parlement européen qui saisit la justice européenne au sujet de l'accord Mercosur, le vote vient d'avoir lieu, c'est une victoire pour les opposants à ce texte. Nous serons à Strasbourg. Nous irons également à Davos en Suisse. Donald Trump y est attendu cet après-midi. Son avion vient d'atterrir dans le pays. Nous verrons que cette fois, les patrons français soutiennent l'opposition frontale. Et puis en Allemagne, bonjour Sébastien Baer.
Bonjour.
Chez vous monte le débat sur un boycott de la prochaine Coupe du Monde de foot aux États-Unis.
Oui, des voix s'élèvent de plus en plus pour réclamer le retrait de l'Allemagne, l'une des meilleures équipes au monde. Une menace de boycott pour tenter de ramener Donald Trump à la raison.
A tout de suite, l'actualité internationale qui sera aussi à la une de la chronique cinéma d'Alexis Demeyer. Nous irons également à Quimper, le Finistère en vigilance orange pluie.
Vous avez eu de l'eau jusqu'où ?
Jusqu'au genou. J'ai les pieds trempés. D'habitude, c'est pas autant inondé quand il pleut. Ça monte jusque dans le parc.
Ça sort de la plaque d'égout qui est en face. Et le fait que la place soit en pente, ça coule plus de l'autre côté.
Le Morbihan concerné également. À partir de 13h30, Ginette Colinca est notre invitée exceptionnelle. À bientôt 101 ans, elle publie Contre la haine, un livre d'entretien dans lequel elle raconte sa déportation dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Un livre qui est aussi un avertissement pour nous. 01 45 24 7000 pour vos questions. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson avec un chanteur pour enfants. Vincent Malone, qui choisit Bourvil ?
Je l'aime tout court, voilà. Je veux bien qu'il soit mon père, mon frère, mon prédécesseur dans l'aube. Voilà, alors s'il pouvait m'attendre en chantant... Elle vendait des cartes postales, ça serait trop bien, t'imagines ? Elle vendait des cartes postales, superbe.
Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Face aux écrans et à leur danger pour les jeunes, faut-il s'opposer ou dissuader ? Bonjour Xavier Demani.
Bonjour Jean, bonjour à tous.
Vous nous expliquerez dans un instant qu'il est impossible pour un pays seul comme la France d'en interdire l'accès. Mais arrêtons-nous d'abord sur une autre méthode, utilisée depuis l'an dernier au collège de Champé, nous sommes dans le Puy-de-Dôme. C'est unique en France, les élèves y sont encouragés à supprimer les applications de réseaux sociaux de leur téléphone, et ça marche, les résultats sont surprenants, comme l'a constaté sur place Raphaël Benabdelmoumen.
Un an sans scroller, faire de TikTok ou poster de story, mais l'été a été compliqué pour les cinquièmes, constate le CPE Olivier Rogeau.
Alors j'ai vos questionnaires, et d'après vous, qu'est-ce qui a été réinstallé pendant l'été ?
Snapchat, eh oui.
Quelques-uns ont craqué, mais rien à voir avec le début de la sixième, ils étaient alors la moitié à utiliser TikTok, Instagram ou Snapchat, et plus que 4 sur 114 à la fin de l'année scolaire. Pour Thiago, c'est moins d'écran et plus de moments partagés en vrai.
Jouer avec mes amis dehors, passer plus de temps en famille, je m'en rappelle sur Snapchat et on s'embrouillait souvent et dès que je l'ai désinstallé, ça allait mieux, on arrivait mieux à régler les trucs.
Résultat, moins d'insultes dans la cour de récré, ajoute Léa.
Les histoires se réglaient mieux parce que on se parlait en face à face au lieu de s'envoyer des messages ou tout ça.
Fini aussi les messages d'inconnus que Clara recevait sur Snapchat.
C'était des menaces, par exemple, oui, j'ai ta localisation, je vais pouvoir tuer toute ta famille. C'était des inconnus, mais j'avais pas compris ce que j'avais fait.
Des photos aussi à caractère sexuel qui ont circulé en début d'année dernière. Les collégiens ont vraiment eu peur, se souviennent le CPE et la principale Sylvie Mouzeillard.
Ces incidents nous ont permis d'être très concrets parce que ces jeunes de 6e et de 5e, les informations, ils les ont. Donc si on fait une nouvelle redite des dangers, des risques, on ne va pas amener une plus-value. Et c'est là où j'ai réussi à les motiver parce qu'il n'y avait pas de contrainte. Je ne leur ai pas dit, je vais vous interdire.
Et surtout, effectivement, tous en fait, se mettent à ne plus utiliser certains réseaux sociaux et des gamins sans téléphone ne se sentaient plus justement à l'écart ou alors en dehors de discussions qu'ils auraient pu rater.
Objectif désormais retarder le plus possible cible l'arrivée de cette cohorte sur les réseaux et leur donner les clés pour y évoluer en sécurité.
Bon, on constate et on l'entend les bienfaits d'une vie avec moins d'écran, Xavier Demani. Le gouvernement souhaite l'interdiction des réseaux sociaux oui. Au moins de 15 ans. Une proposition de loi doit être examinée lundi à l'Assemblée.
Un texte porté par la députée macroniste Laure Miller, rapporteure de la commission d'enquête TikTok l'an dernier. Elle sera examinée lundi, jour de niche parlementaire de son groupe, avec a priori le soutien du gouvernement. Objectif, entrer en vigueur en septembre.
Mais la France a le pouvoir de contraindre TikTok, par exemple, à bannir ses utilisateurs de moins de 15 ans ?
Non, en tout cas, pas toute seule. D'où l'enjeu de s'accorder sur un texte applicable. La loi Marcangeli de 2023, par exemple, non conforme au droit européen, n'a jamais été mise en œuvre. Pour faire simple, et c'est le nœud du problème, on ne peut pas contraindre des plateformes qui ne sont pas installées en France, et aucune d'entre elles ne l'est. On doit donc s'appuyer sur le droit européen, le Digital Services Act, le DSA. Il y a donc deux temps. Notre loi nationale, d'abord, vient fixer un âge minimum. Et petit 2, le règlement européen impose aux plateformes la vérification d'âge. Une vérification d'âge, a priori, et de tous les utilisateurs. C'est en tout cas la lecture qu'en fait la France. Pas tout à fait celle des réseaux sociaux concernés, vous l'imaginez. Côté technique, les solutions existent, mais la reconnaissance faciale et la détection de l'âge ne sont pas 100% fiables. La preuve d'âge par pièce d'identité pose des questions de lourdeur, de protection de la vie privée. Selon nos informations, une expérimentation est en cours pour l'intégrer à l'application France Identité.
Xavier Demany, et cette journée spéciale écran se poursuit sur Inter, notamment dans le téléphone sonne ce soir à partir de 19h20. Le vote vient tout juste d'avoir lieu à Strasbourg. Les députés européens décident de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur l'accord avec le Mercosur. C'est donc une défaite pour les partisans de ce traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Le vote a été extrêmement serré.
Effectivement, il s'est joué à 10 voix près, 334 pour, 324 contre. Le recours contre l'accord commercial avec le Mercosur sera donc bien introduit devant la Cour de justice de l'Union européenne. Sans surprise, les eurodéputés ont beaucoup voté en fonction de leurs origines nationales. Les Français opposés au projet d'accord commercial ont voté pour cette saisine dans un élan unanime et assez rare de l'extrême gauche à l'extrême droite de l'hémicycle. Les Allemands et les Espagnols favorables à l'accord se sont au contraire opposés à tout recours contre l'accord. Ce qui a fait la différence, Jérôme, ce sont 11 abstentions qui aurait pu donc faire pencher le vote dans l'autre sens, puisqu'il s'est joué à 10 voix près.
La Cour de justice de l'Union européenne va donc être saisie. Est-ce que ça bloque l'entrée en vigueur de cet accord ?
Alors, pas automatiquement à ce stade, ce point doit encore être confirmé car le recours voté ce midi gèle simplement la poursuite de la procédure d'examen de l'accord par le Parlement. Mais cela n'empêche pas automatiquement son application provisoire, c'est ce qui avait été décidé début janvier lors de son approbation par le Conseil européen, les États membres, qui n'ont pas soumis cette application provisoire à l'aval du Parlement. Reste que de l'avis de nombreux eurodéputés ici, ce serait explosif politiquement de court-circuiter le vote démocratique d'aujourd'hui. La décision en reviendra à la Commission et au Conseil européen qui, eux, se sont toujours prononcés pour l'accord. La Commission européenne dit d'ailleurs à l'instant regretter le vote du Parlement.
Merci Fabien Cazot. Bonjour Lou Bourdi.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes à l'extérieur du Parlement européen à Strasbourg avec les milliers d'agriculteurs qui sont arrivés hier. Comment réagissent-ils à ce vote ?
Eh bien Jérôme, au moment de l'annonce du résultat du vote, il y a quelques minutes à peine, un grand cri de soulagement devant le Parlement. Les agriculteurs ont tout simplement explosé de joie. Ils se sont pris dans les bras. Avec nous, Christophe Chambon d'ailleurs, il est secrétaire général adjoint de la FNSEA. Beaucoup d'émotions dans vos yeux et on peut le dire, un très grand sourire.
Alors oui, bien sûr, beaucoup d'émotions à l'envers, à la pensée de tous nos collègues qui se sont mobilisés depuis ces derniers mois, ces dernières années, et tout ce temps passé, l'énergie pour enfin voir un premier virage être pris au niveau du Parlement européen. Donc oui, la mobilisation a payé, mobilisation nationale, européenne pour nos réseaux FNSEA et COPACO-GECA, et quand on travaille en force, en nombre, on arrive à obtenir des choses et c'est une satisfaction à l'heure qu'il est. On a bien conscience que c'est qu'un début, on continue le combat, mais c'est un début positif.
Soulagement donc pour ces agriculteurs, vous l'avez compris, qui vont lever le camp dans pas longtemps, d'ici une heure, même s'ils le disent, le combat n'est pas terminé parce qu'ils comptent bien maintenir la pression jusqu'au passage de l'accord, donc devant la Cour de justice européenne.
Lou Bourdi en direct de Strasbourg avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. Là, c'est la filière lait qui est concernée. Nous vous avons parlé de cette enquête ouverte en France après la mort d'un bébé qui avait consommé du lait infantile Nestlé, un lait concerné par un vaste rappel. Eh bien, un autre groupe est concerné, Lactalis rappelle 6 lots de lait infantile de la marque Picot. On l'a appris ce matin. Bonjour Marie Dupin.
Bonjour.
C'est toujours le même composant qui est en cause.
Eh oui, hein, ce qu'on retrouve dans tous ces laits, hein, Lactalis, Nestlé, c'est la toxine céréulide. Hein. Cette toxine, elle peut provoquer des vomissements, des nausées, mais pas seulement, hein, Jérôme, des décès décès de nourrissons et de jeunes enfants ont déjà été documentés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les fabricants de lait infantile sont potentiellement concernés par cette toxine qui provient d'une huile qui est utilisée dans la composition de très nombreux laits. C'est une matière première fournie par un fournisseur chinois. Pour les parents dont les enfants ont présenté des symptômes, c'est le ministère de l'Agriculture qui est chargé de tester la présence de la toxine dans les peaux. Mais selon nos informations, les demandes affluent de toutes parts. Et surtout, il y a une difficulté majeure. Il n'existe en France aucun centre national de référence capable de tester, de détecter cette toxine dans les selles d'un enfant, ce qui rend impossible à ce stade la confirmation d'un lien direct entre la consommation de ces laits infantiles et une maladie ou un décès, en l'occurrence le décès d'un enfant pour lequel une enquête est ouverte.
Et parmi les lots concernés, Pico Nutrition Quotidienne 2e âge, Pico AR 2e âge ou encore Pico Nutrition Premier âge, explication Marie Dupin, cellule investigation de Radio France. Nous étions au Parlement européen il y a un instant. C'est là qu'a débuté l'affaire qui vaut aujourd'hui au Rassemblement national et à 11 cadres du parti dont Marine Le Pen d'être poursuivie pour détournement de fonds. Le procès en appel des assistants d'eurodéputés du FN se poursuit au Palais de Justice de Paris avec l'interrogatoire depuis hier de la triple candidate à l'élection présidentielle. Cet interrogatoire se poursuit aujourd'hui. Marine Le Pen interrogée ce matin sur ses contrats d'assistants à elle. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Vous suivez ce procès pour Inter. Bon, Marine Le Pen a passé une matinée difficile.
Oui, car si hier, interrogée comme chef de parti, elle a pu se défausser ou plaider l'ignorance de certains contrats, ce matin, c'est du concret de ses assistants parlementaires à elle qu'il s'agit, quatre assistants du temps où elle était eurodéputée. Trois d'entre eux étaient garde du corps, secrétaire particulière, chef de cabinet de son père, Jean-Marie Le Pen. Des contrats pour lesquels Marine Le Pen veut bien admettre ne pas avoir tout fait parfaitement, mais nous étions de bonne foi. La quatrième, Catherine Griset, est son amie et assistante de toujours, avant même que Marine Le Pen ne rejoigne le Front National. Pendant 8 ans, entre 2008 et 2016, Catherine Griset est son assistante parlementaire. Pourtant, elle apparaît sur l'organigramme du parti comme chef de cabinet, relève la présidente. Parce qu'elle est la porte d'entrée pour Marine Le Pen, affirme la prévenue. Mais elle a effectué l'intégralité du travail administratif de mon mandat de députée européenne. Son statut d'assistante parlementaire l'obligeait à résider à Bruxelles, à travailler sur le site du Parlement, poursuit la présidente. Il y a des règles quand même, et vous êtes avocate. Les statuts au début, c'est toujours un peu flou, tente de se défendre Marine Le Pen. Depuis le début, ce statut interdit le télétravail, martèle encore la présidente. Et ça, ça semble assez clair.
Charlotte Piret, en direct du Palais de Justice de Paris, avec les moyens techniques de Raymond Albouy. Il est visé par une vague de messages haineux sur les réseaux sociaux. Le proviseur du lycée Balzac de Mitry-Mory en Seine-et-Marne se met en retrait de ses fonctions. À sa demande, précise le rectorat, c'est dans cet établissement qu'était scolarisée la jeune Camélia. 17 ans, elle s'est donné la mort la semaine dernière. Elle se disait victime de harcèlement à l'école et dans ses derniers messages avec sa famille, révélés dans la presse, elle regrette était l'attitude du proviseur dans cette affaire. Le parquet de Meaux a ouvert 4 enquêtes. Et puis en Gironde, un collégien de 13 ans est mort ce matin, percuté par un bus. Il traversait sur un passage piéton à Arvers, près de Libourne. Le chauffeur explique qu'il ne l'a pas vu.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Il vient d'atterrir en Suisse avec un peu de retard en raison d'une panne sur son avion. Mais Donald Trump sera bien là à Davos cet après-midi, la très chic station suisse, théâtre depuis le début de la semaine de l'affrontement entre Européens et Américains. En cause, la volonté de Trump d'annexer le Groenland. Alors comment réagir face à lui ? Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Claire, vous êtes à Davos, vous avez sondé ce matin les patrons français et européens, on va les écouter dans un instant. Hier, un homme leur a donné un conseil, le gouverneur démocrate de Californie, aujourd'hui principal opposant à Trump aux États-Unis, c'est Gavin Newsom.
Il est temps de devenir sérieux, de rester grand et ferme, d'avoir une colonne vertébrale. Le moment d'avoir des principes, de rester unis. C'est à vous d'avoir cette détermination collectivement. Faire de la diplomatie avec Donald Trump, c'est un T-Rex. Soit vous êtes avec lui, soit il vous dévore. C'est ce qui pourrait arriver aux Européens s'ils poursuivent sur la même voie.
Gavin Newsom interrogé par la BBC. Claire Chaudière, est-ce que les patrons que vous avez vus ce matin sont raccord et ils ont gros à perdre ?
Oui, ils sont en tout cas de plus en plus agacés, ouvertement agacés, ce qui est quand même une posture un peu nouvelle. Hein. Et on les entend débattre ici, dans les couloirs du centre des congrès, de la bonne réponse à adopter. Cette fois, il faut être ferme, dire stop, affirmait il y a quelques minutes juste à côté de moi la dirigeante d'une grosse entreprise tricolore. Attention tout de même aux conséquences d'une escalade, lui répondait l'un de ses voisins. Pascal Cani, l'ambassadeur des milieux économiques français à l'étranger auprès de Business France, lui, n'y va pas par quatre chemins.
Il y a une résistance, on va se battre. Je ne vais pas vous dire que tout va être simple, mais je pense qu'on a un moment de prise de conscience intéressant. Il faut avoir l'audace de résister face à des USA qui cognent, avec, je vous rappelle aujourd'hui, moins de 80% d'accord des Américains sur le fait de vouloir prendre le Groenland.
Et certains vont même jusqu'à envisager de relocaliser leur activité américaine, comme ce jeune start-upper qui secoue le secteur de la cybersécurité, Benjamin Netter.
On a vraiment l'impression que les États-Unis sont en train de se couper du monde. C'est sûr que c'est un pays qui est moins attractif qu'il l'était il y a une semaine aux yeux des entrepreneurs français. On vient d'ouvrir un bureau à New York et on est en train de réfléchir à se réorganiser pour ouvrir plutôt des bureaux autre part qu'aux États-Unis, puisque l'impression qu'ils nous donnent, c'est qu'ils n'ont pas envie de travailler avec nous.
Alors de là à imaginer un détournement massif des flux d'investissement au détriment des États-Unis, il y a encore un pas, hein, mais l'humeur générale des acteurs économiques, industriels et financiers français et européens, elle, est clairement en train de se dégrader.
Claire Chaudière en direct de Davos avec Julien Girard. Il faut que l'Europe dise stop à Donald Trump et le moment est venu, a dit ce matin sur Inter Patrick Martin, le président du MEDEF. Alors la tonalité est-elle la même dans la classe politique ? Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Il semble que oui, depuis hier, elle est unanime pour soutenir la position d'Emmanuel Macron.
Et y compris parmi ses adversaires les plus farouches, Jean-Luc Mélenchon, hier soir sur France 2, tout miel face au ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, célébrait le changement de ton, les décisions d'Emmanuel Macron, notamment son refus de participer au Conseil de la paix proposé par Donald Trump.
Il a dit, non mais il a refusé de participer à ce fameux Conseil de la paix. Eh bien, je l'approuve et le soutiens dans cette décision. Pourquoi ? Parce que c'est une ONU bis.
Le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, ne dit pas autre chose. Total soutien à la diplomatie française, dit-il à l'instant depuis l'Assemblée. Même le RN a remisé ses tendresses idéologiques pour Donald Trump. Hier, devant le Parlement européen à Strasbourg, Jordan Bardella reprenait même jusqu'au vocabulaire d'Emmanuel Macron, préférence européenne, hostile face à Donald Trump.
L'Union européenne doit activer sans délai ses instruments anti-coercition et assumer des mesures ciblées. Elle doit mettre en œuvre la préférence européenne dans les marchés de défense.
Un zèle européen qu'on ne lui connaissait pas, il est vrai. Hier justement, publication d'un sondage IFOP très commenté, la défiance des Français vis-à-vis des États-Unis a bondi, plus 12 points depuis avril.
Précision Marie Mollet. Et cette crise entre l'Europe et les États-Unis fait naître un autre débat en Allemagne. Faut-il participer à la prochaine Coupe du Monde de foot que les Américains vont co-organiser à partir du 11 juin ? Sébastien Baer, on vous retrouve en direct de Berlin. C'est le sujet qui monte chez vous, Sébastien.
Oui, Jérôme, de plus en plus de parlementaires, de la majorité comme de l'opposition, brandissent la menace d'un boycott pour, espère-t-il, inciter enfin Donald Trump à revoir sa position. Les élus font ce constat. Oui, c'est vrai, l'économie européenne dépend largement des États-Unis, mais c'est l'Europe qui domine le football mondial. Une Coupe du Monde privée des meilleures nations, à commencer par l'Allemagne, victorieuse quatre fois, n'aurait donc plus guère de sens. C'est le député conservateur Jürgen Hart, proche du chancelier Friedrich Merz, qui a lancé l'idée du boycott sur la radio Deutschlandfunk.
Comment pouvons-nous faire la fête dans un pays comme les États-Unis alors que le pays hôte est agressif vis-à-vis de l'un des États membres de l'Union européenne ? À part les Jeux olympiques, il n'y a pas d'événement plus important que la Coupe du monde de football. Le président américain doit être conscient que s'il franchissait ce pas, rien ne serait plus comme avant dans nos relations transatlantiques, y compris les choses qui comptent pour lui, comme la Coupe du monde de football.
Un Allemand sur deux se dit favorable à un boycott si Donald Trump ne renonce pas à conquérir le Groenland et s'il déclenche une guerre commerciale contre l'Europe. Le gouvernement allemand, lui, reste prudent, soucieux de ne pas rompre le contact avec les États-Unis, son premier partenaire commercial. L'entourage de Friedrich Merz s'en remet à la Fédération allemande de football, qui devra donc décider si la Mannschaft sera présente à Houston le 14 juin pour jouer son premier match contre Curaçao.
Merci Sébastien Baer. J'ajoute que la ministre des Sports française explique, elle, qu'il n'y a pas de volonté de boycott de son côté. Mais cela ne préjuge pas de ce qui pourrait se passer, conclut Marina Ferrari. Et les choix de Donald Trump ont des conséquences ailleurs dans le monde. Exemple, en Syrie, les États-Unis ont refusé ces derniers jours de soutenir les Kurdes face à l'ex-djihadiste Al-Sharrah, devenu président. Résultat, les FDS, les forces kurdes, ont perdu le contrôle du nord-est du pays et notamment la garde des prisonniers djihadistes de l'État islamique. Notre correspondante sur place, Manon Chaplin, a pu se rendre dans la prison de Sini, dans la ville de Shadadeh. Les prisonniers en ont profité pour s'échapper.
Par dizaines, les tenues orange des prisonniers de l'organisation État islamique jonchent le sol de l'entrée. À terre, des cadenas découpés, tout autour un important dispositif de sécurité. Les soldats de l'armée accusent les FDS d'avoir ouvert les portes de la prison avant de la quitter.
Vous voyez, les portes ont été ouvertes volontairement. Il n'y a aucune trace d'effraction.
Difficile de vérifier l'exactitude des faits qui se sont déroulés ici. Les FDS, eux, accusent les forces gouvernementales d'avoir lancé des assauts répétés, la coalition internationale anti-djihadiste de les avoir abandonnés. Dans la foulée, les autorités ont annoncé avoir récupéré 80 des 120 prisonniers qui s'étaient échappés. Donald Trump, lui, a affirmé avoir contribué à empêcher l'évasion des djihadistes européens. Dans la région, des milliers d'ex-combattants et leurs familles sont retenus dans les prisons et les camps. Les FDS ont annoncé avoir été contraintes de se retirer de celui d'Al-Hol, qui renferme près de 20 000 femmes et enfants d'anciens combattants. La sécurisation de ces établissements sera pour la coalition internationale un enjeu primordial. Hier, l'émissaire américain en Syrie a estimé que la mission des combattants kurdes était finie, que le nouveau pouvoir syrien était désormais capable de contrôler les prisons de l'EI. À Shadadeh, Manon Chaplin pour France Inter.
Lyon et Bordeaux sont les villes les plus embouteillées de France et Paris les moins qu'il y a quelques années. Résultat du baromètre publié aujourd'hui par la société TomTom qui a analysé les données de trafic. Et justement à ce sujet, il y a du nouveau depuis la nuit dernière. Des députés et sénateurs ont trouvé un accord pour supprimer les zones à faible émission, les ZFE qui limitent la circulation des véhicules les plus polluants dans nos villes. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Les ZFE, c'est fini ?
Alors si la loi est promulguée, il n'y aura plus de cadre légal pour les 25 ZFE déjà en place et la dizaine d'autres projets. Un dispositif qui s'était déjà bien assoupli. Au départ, il devait y avoir 43 ZFE pour respecter les normes de pollution européennes. Mais comme la qualité de l'air s'est améliorée, on est passé à 38, puis à 25. Ces 25 villes fixent elles-mêmes le calendrier et le niveau de restriction de circulation suivant les vignettes critères. Les restrictions les plus contraignantes concernent Paris et Lyon parce qu'elles dépassent encore les seuils de pollution. Ce sont d'ailleurs les deux seuls agglos où les voitures critères 3 sont en théorie interdites. Le dispositif ZFE était loin d'être parfait, reconnaît l'association de lutte contre la pollution, Respire, mais son président Tony Renucci regrette sa disparition.
Je pense que c'est une décision qui met en danger la santé publique des Français. Les parlementaires n'ont pas suffisamment réfléchi à quelles seront les conséquences de supprimer une mesure qui peut-être n'était pas parfaite, mais de la supprimer sans alternative. Je pense à Paris et à Lyon, c'est 650 000 véhicules. Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver un moyen de cibler des aides spécifiques, notamment pour les ménages modestes, juste dans ces zones-là, ou de leur donner un accès au leasing social qui soit favorisé ? On aurait pu réfléchir à ça.
Pour supprimer les ZFE, il faut encore un vote au Parlement. Et même après, le PS et les écologistes envisagent déjà un recours au Conseil constitutionnel.
Sandy Dauphin, la circulation est délicate en Bretagne aujourd'hui, mais en raison de la pluie, Morbihan et Finistère placés en vigilance orange jusqu'à 16h, avec en plus des coefficients de marée qui sont élevés. Voilà les fleuves côtiers sous surveillance. C'est le cas de l'Aude autour de Quimper. L'Aude et le Ster, son affluent, sont sortis de leur lit ce matin, les pieds dans l'eau sur place. Laura Bléré.
Difficile de circuler à Quimper avec de nombreuses routes barrées, inondées, comme dans le quartier du Moulin Vert où même les bus étaient à la peine.
Alors on est obligé de faire un terminus anticipé à Cosquer au lieu de Moulin Vert.
Alors Marley a dû faire son arrêt en plein rond-point.
Même nous chauffeurs on aura impacté, on peut pas faire notre pause là où il faut, on est obligé de faire dans le rond-point. Je vois que ça impacte tout le monde, surtout les élèves, etc. On peut pas tous les déposer à l'heure.
Justement Emma est lycéenne, elle serait bien restée chez elle, mais elle est obligée de sortir.
Oui, parce que c'est important aujourd'hui. J'ai des révisions pour un contrôle plus tard.
Vous êtes passé, vous avez eu de l'eau jusqu'où ?
Jusqu'au genou, à peu près ici. J'ai les pieds trempés. D'habitude, c'est pas autant inondé quand il pleut. Ça monte jusque dans le parc, mais ici, il y a des petites flaques, mais ça va.
Plus en aval du Ster, le centre-ville a aussi été touché.
Vous voyez la maison qui est là ?
Bah, le ster tape dedans et ça coule comme ça.
Fabrice est un commerçant de la place Terre-au-Duc. Il montre du doigt l'origine de l'eau.
Ça sort de la plaque d'égout qui est en face. Et le fait que la place soit en pente, ça coule plus de l'autre côté.
De l'autre côté, en effet, l'eau est entrée dans plusieurs boutiques malgré les précautions prises par les commerçants, obligés de la vider avec des balais. On savait que ça montrait, souffle l'une d'elles, mais devant le résultat, elle se dit dépitée.
Reportage ici, Bray Zizel et météo complète dans 5 minutes, le cinéma.
Le monde se divise en deux catégories.
Hasta la vista, baby.
Toi, tu creuses. Splendid.
Et un rendez-vous rattrapé par l'actualité internationale aujourd'hui. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Jérôme.
Avec ce film qui nous parle de la Russie de Vladimir Poutine, le mage du Kremlin.
He's young, athletic. He's a spy. KGB. Vladimir Putin. What interests me is power.
La star britannique Jude Law dans le rôle de Vladimir Poutine, c'est l'idée audacieuse, pour ne pas dire what the fuck, du réalisateur français Olivier Assayas, qui après le terroriste Carlos et le régime castriste, entre autres, s'intéresse ici, vous l'aurez compris, à la Russie post-soviétique. Assayas s'adapte en compagnie de son complice Emmanuel Carrère, le best-seller de Giuliano De Empoli. Le mage du Kremlin du titre, c'est Vadim Baranov, interprété par Paul Dano, le mystérieux et machiavélique conseiller de Poutine. Le résultat est parfois un peu artificiel, tout le monde parle anglais, on l'entend, parfois un peu trop didactique aussi, mais souvent brillant et surtout diablement passionnant.
Un film québécois attire votre attention, Amour Apocalypse.
Oui, après entre autres Simple comme Sylvain et Une langue universelle, la comédie à la canadienne prouve une fois encore sa belle vitalité. La cinéaste québécoise Anne Aymon s'intéresse ici à Adam, un célibataire de 45 ans, éco-anxieux, qui va tomber amoureux d'une téléopératrice.
Is everything okay with the lamp?
This is great customer service. Je parle avec une femme au téléphone depuis quelque temps. On a de très belles conversations.
Je ne parle pas de français. I'm sorry.
Son mari, c'est tout.
En interrogeant la masculinité de son héros, mais aussi son rapport à la crise climatique, Amour Apocalypse contribue à renouveler le genre de la comédie romantique. Et avec son female gaze, Anne Aymon apporte un contrepoint bien senti aux productions de l'américain Judd Apatow, auquel on pense beaucoup ici. On regrettera tout de même l'essoufflement du film et la morale bien plus conformiste que la promesse initiale, mais ce genre de divertissement rafraîchissant et stimulant est suffisamment rare dans le cinéma des années 2020 pour qu'on ne boude pas notre plaisir.
Vous êtes moins convaincu par le drame social Grand Ciel.
Oui, car l'idée de départ, la disparition d'ouvriers sur des chantiers pharaoniques est très intéressante. Et la troupe d'acteurs de Damien Bonnard à Mouna Soualem en passant par Samir Ghesmi, très convaincante.
J'ai jamais vu ça, ça s'effrite de partout.
Ça va Ousmane ?
Ouais, ouais, ça va.
Le principal souci du film est son côté programmatique. On comprend au bout de 2 minutes seulement que les ouvriers vont se faire exploiter par les méchants patrons et c'est ensuite une démonstration un peu scolaire et surtout très convenue de cette thèse de départ. Des cinéastes sociaux comme Ken Loach ou les frères Dardenne font ça très bien, mais ici le jeune réalisateur Akihiro Hata peine, selon moi, à insuffler suffisamment d'émotion et d'originalité dans ce projet prometteur mais finalement trop binaire.
Quoi d'autre à l'affiche aujourd'hui, Alexis ?
Il y a bien sûr Hamnet de Chloé Zhao avec Paul Mescal dans le rôle de William Shakespeare, Primate, un film d'horreur qui prend pour décor une île paradisiaque, et une page après l'autre, un film hongkongais qui évoque la question de la pression scolaire et du suicide chez les enfants.
La critique d'Alexis Demeyer, chaque mercredi dans ce 13-14. Maintenant, allez vous faire votre propre avis, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Céline Dacosta. Puis à partir de 13h30, Ginette Colinca est notre invitée pour le livre « Contre la haine », écrit avec l'autrice de bande dessinée Katel Müller, un livre dans lequel elle raconte sa déportation à Auschwitz-Birkenau. 01 45 24 7000 pour être avec nous. 13h45, notre feuilleton consacré à une comédie musicale un peu particulière, Radio Michel. On y joue que des titres des Michel. Troisième épisode à suivre. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Éric Fotorino, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Éric, vous êtes penché sur l'année 1926.
Et oui Jérôme, je vous propose un petit chassé-croisé, passé-présent, pour nous remémorer ensemble quelques événements notables des années qui finissent en 6, pour remonter, vous l'avez dit, jusqu'il y a 100 ans, en 1926.
Et avec vous Frédéric, un chanteur.
Chanteur pour enfants, il s'agit de Vincent Malone, connu notamment pour avoir créé le personnage du roi des papas. Et avec lui, nous écouterons une chanson écrite il y a 80 ans, Les crayons de Bourvil.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Le Crédit Mutuel donne le la à l'Hyper Weekend Festival de Radio France.
En direct sur France Inter, dimanche 25 janvier à 20h, retrouvez Youssoupha pour un hommage exceptionnel à Daniel Balavoine.
Kerenan fait son grand retour sur scène à écouter le 31 janvier.
Sur FIP, en direct vendredi 23 janvier à 21h, Tilassine avec la maîtrise de Radio France et samedi 24 janvier, Camille avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France à 20h, puis Yeray Cortès pour sa première scène parisienne à 22h30.
Découvrez d'autres concerts sur l'appli Radio France, en partenariat avec le Crédit Mutuel, Mastercard, Malongo et le Centre National de la Musique.
France Inter présente le bilan du monde. Dans ce hors-série annuel, la rédaction du Monde revient sur une année 2025 marquée par un retour des impérialismes américains, russes et chinois, une Union européenne stigmatisée et une crise politique française. Pour mieux comprendre les défis de 2026, le bilan du Monde dresse l'état des lieux des 198 pays et propose une synthèse des événements marquants de l'actualité internationale, économique et environnementale de l'année écoulée. Le bilan du Monde à lire en ce moment. Un partenariat France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Ciel encore bien perturbé sur l'ouest du pays.
Oui, avec toujours deux départements vigilance orange pour pluie et inondation, le Finistère et le Morbihan. Les sols sont saturés. Sur le Finistère, on rajoute la vigilance crue pour les possibles débordements de l'Odé et de la Laïta, mais on surveille également d'autres cours d'eau sur le secteur qui peuvent être appelés à réagir avec les pluies qui sont encore parfois soutenues. Mais c'est effectivement tout l'ouest du pays qui est sous les nuages et la pluie, avec de bonnes rafales de vent en prime jusqu'à 100 km à l'heure sur les Pyrénées, où on a également un petit peu de neige sur le relief en moyenne montagne. Et puis sur le reste du pays, là, le temps est plus calme, plus sec aussi, et de plus en plus ensoleillé en allant vers l'est. On peut avoir encore un petit peu de grisaille qui persiste localement dans les plaines d'Alsace ou dans le Val de Saône. En Corse, on a également le retour de quelques averses sur l'ouest de l'île, et les pluies sont toujours présentes sur le Languedoc-Roussillon. Elles vont même se renforcer en fin de journée sur les Cévennes.
Et les températures ?
On remonte un petit peu cet après-midi selon Météo France, 10 à 16 degrés du nord au sud, 8 à Paris hier, il en fera 13 cet après-midi. Ça remonte aussi sur le nord-est, mais ça reste quand même un peu plus frais, avec 2 à 8 degrés en moyenne.
Céline Dacosta.
France Inter crève l'écran. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Ginette Colinca.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'avoir accepté l'invitation du 13-14 de France Inter aujourd'hui pour parler de ce livre « Contre la haine » aux éditions de La Sirène, qui sort dans les prochains jours. C'est un long entretien avec l'autrice de bande dessinée Katel Müller, qui en signe aussi les dessins, qui l'illustre. Et le livre commence par cette présentation. Je vous lis. « Je m'appelle Ginette Colinca, née Cherkassky le 4 février 1925 à Paris. J'avais 19 ans quand j'ai été déportée dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Je suis revenu et aujourd'hui, je combats contre la haine parce que l'extermination, c'est la haine à l'état pur. » 01 45 24 7000 pour tous ceux qui nous écoutent, qui veulent être avec nous, qui veulent vous interroger. J'attends aussi vos témoignages par l'application Radio France. Vous pouvez aussi passer par l'onglet « Réagir ». Ginette Colinca, vous êtes l'une des dernières survivantes de la Shoah à témoigner. Vous le faites sans relâche, parfois plusieurs fois par semaine. Pour quelle raison ?
Pour quelle raison ? Parce que je fais une campagne contre la haine et les adultes, je ne peux pas les convaincre, personne ne m'écouterait. Mais quand on va dans les établissements scolaires, là j'ai en face de moi des jeunes et ils sont côte à côte. Souvent, il y a différentes cultures. Ça se voit, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas dire que je mets du racisme ou de l'antisémitisme, mais au faciès, on reconnaît que des gens sont d'une région, une autre, d'autre. Eh bien, ils sont là, côte à côte, et quand je leur pose des questions, est-ce que vous restez chacun avec ceux de vos compatriotes, ou est-ce que vous avez plaisir à être l'autre ? Ils me regardent, ben, naturellement qu'on est ensemble. Eh bien, voilà, c'est ce qu'il faut. À mon avis, c'est connaître, en discutant avec les gens qui ne sont pas comme vous, eh bien, on apprend des choses. Voilà.
C'est le sens de votre vie, aujourd'hui, de témoigner.
C'est devenu de ma vie, il ne faut peut-être pas exagérer, hein, mais c'est vrai que j'apprécie que l'endroit où j'ai fini mes jours, que les établissements les invalides, m'accordent le droit d'aller dans les établissements. Et les élèves m'écoutent très attentivement. Les professeurs sont étonnés de voir que pendant deux heures et demie, ils ne bougent pas. Je leur dis que c'est parce que moi, je les intéresse. Ils leur racontent l'histoire des Gaulois, ils s'en foutent. Je dis des bêtises, j'aime bien blaguer. C'est une période très, très, très dure. Et j'espère qu'elle ne... Jamais, 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 personne ne... retrouvera une période pareille.
C'est le message de ce livre « Contre la haine ». Vous racontez, Ginette Colinca, ce qui vous est arrivé à vous et à votre famille, l'arrestation à Avignon le 13 mars 1944. Vous y étiez réfugié après avoir quitté Paris, arrestation par la Gestapo allemande. « On nous a dénoncé parce qu'on est juif », vous dit votre père, à moins que ce soit la Gestapo qui vous parle. « On vient vous arrêter parce que vous êtes juif. » Vous ne savez plus très bien. Mais pour le reste, vous dites « C'est comme si c'était hier ».
Exact. Exact. Alors que j'ai pas de mémoire du tout, je me rappelle plus ce que j'ai fait hier, il faut que je regarde mon agenda, mais mon cerveau doit être tapissé de toutes ces images et de tout ce qu'on a pu... Il y a des choses que certainement j'ai oubliées, mais je peux vous dire que... Mais je suis pas toute seule à être... avoir survécu, et je crois que toutes les camarades doivent être comme moi. Moi, je ne vis pas avec la déportation, mais oublier, c'est pas possible.
Vous avez été arrêté avec votre père, votre frère, votre neveu également, conduit dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Eux sont assassinés. On estime à plus d'un million de personnes les victimes des nazis à Auschwitz-Birkenau, dont 865 000 juifs. Vous vous êtes mise au travail forcé. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consistait, Ginette Colinca?
Je ne me suis pas mise. On m'a obligée à y être. Parce qu'un travail, ça s'appelait un commando. Il y avait... Je ne connaissais pas, je pensais, moi, qu'il n'y avait que le mien comme commando. Mais non, il y avait plein de commandos, plus ou moins difficiles. Moi, j'ai fait, je suis tombée dans... On m'a choisi pour faire des travaux de terrassement. Donc, pour faire des travaux de terrassement, c'est-à-dire creuser des fossés, faire des routes, il faut des pierres, transporter des pierres, casser des pierres... Voilà, j'ai fait tous ces travaux-là, et tout en parlant, je les vois, et même je me dis, est-ce que vraiment t'as fait tout ça? Ben oui, j'ai fait tout ça, parce que j'étais obligée.
Tout ça sous les coups?
Les coups. Ah oui, parce que on était payés quand même, hein, mais payés avec des coups.
Les humiliations, vous les décrivez aussi. Vous dites, j'ai vécu face à la haine.
L'humiliation, tout de suite, naturellement, on la ressent. Vous connaissez personne, vous arrivez, on vous met nu. Premier abord, vous êtes humilié. Mais après, on va vous enlever vos cheveux, vous avez le poil du sexe. Vous êtes humilié. Mais l'humiliation, elle ne dure pas longtemps, vous savez. Mais une fois qu'on a été humilié, on n'est plus rien. Ils nous ont transformés en... On n'est rien. On n'est plus des humains. Je dis...
On est des robots.
On est des... Exact. Mais je dis, j'ai tort de dire on, parce que peut-être que mes camarades n'ont pas eu les mêmes réactions que moi. Moi, je ne connais pas les réactions.
Vous dites, page 100 de ce livre, Ginette Colinca, je vous cite, « On perd les sentiments très vite, peut-être en l'espace d'une matinée, un peu l'après-midi. Après, c'est fini. J'ai appris que mon père et mon frère étaient partis en fumée. Je ne me suis pas trouvé mal. Je n'ai même pas pleuré. D'ailleurs, je n'ai plus jamais pleuré du reste de ma vie. »
Oui, c'est exact. C'est exact. Parce que quand quand mon père et mon petit frère sont montés sur les camions, moi je croyais qu'au contraire, ça serait bien. Donc j'ai pas eu, je les ai pas embrassés parce que j'ai pas eu le temps. Mais bon, ça c'était pas grave. C'est, et quand j'ai appris ce qu'ils étaient devenus, déjà, j'ai écouté. Je crois que j'ai jamais vu une camarade de déportation pleurer. Et cependant, je les ai vus battus, mais pleurer. Je crois que ça leur aurait fait trop plaisir au capot, quoi, l'on pleure. On ne pleurait pas.
Les capots, c'était des détenus qui avaient été transformés en gardiens du camp.
Voilà.
Vous livrez un discours honnête, Ginette Colinca. Vous ne cherchez pas à adoucir la réalité ou la réalité des échanges avec les autres détenus, déportés comme vous. Katel Müller vous pose la question, est-ce qu'il y a eu des moments de solidarité? Et vous dites, la solidarité pour moi, c'était de partager sa nourriture, et ça, personne ne le fait. Même pas une mère avec sa fille, elle va le faire le premier jour, peut-être encore le deuxième. Après, on a trop faim, on a trop faim. Il n'y avait pas de solidarité.
Je le dis et je le redis, attention, je parle de mes réactions. Je n'ai jamais aidé personne et on ne m'a jamais aidé. Mais pour moi, la solidarité, c'était question nourriture. Parce que souvent, on me reprend, et alors la robe, ah ben oui, ça c'est encore autre chose. Pour moi, la solidarité, c'était partager sa nourriture.
Parce qu'on vous avait donné une robe ?
Parce que j'ai fait un travail avec une camarade de déportation que je connais pas. Elle s'appelle Simone Jacob, on est ensemble, on fait une corvée. Et à un moment donné, il pleut des cordes et la capot, qui a une réputation d'être vraiment très, 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 très méchante, eh bien, on passe devant un mirador. Un mirador, c'est... Il y a des miradors où vous avez les soldats qui sont dedans à l'air, et il y a aussi des miradors où c'est comme des petites baraques, et on passe devant un mirador où c'est une petite baraque. Les officiers, en principe, dans ces miradors sont à l'étage. S'il y a étage, il y a un escalier, et on passe devant un mirador comme ça, il est ouvert, la capot nous pousse dedans pour qu'on se mette à l'abri. On est collés avec Simone, l'une, on fait plus qu'une, mais la chaleur aidant et l'abri, on commence à basculer un petit peu, on s'endort. C'est pas la capot, c'est pas ce qu'elle veut, elle nous fait sortir. Et elle est tombée en extase devant cette jeune fille. C'est vrai qu'elle était belle, hein. Elle était peut-être pas trop mal non plus. Et non, elle ne m'a pas regardée. Il n'y en avait que pour Simone. T'es trop belle, t'es trop belle, t'es trop belle. J'ai toujours dans la tête. Et puis, je te donnerai une autre robe, parce qu'il faut reconnaître qu'on était très mal habillés. On n'avait pas ces fameuses robes rayées que les déportés en principe étaient habillés. On n'avait pas ces robes-là parce qu'on était juives et que les juives n'avaient pas le droit à cette... Donc, on est habillés avec des loques et tout. Donc, Simone est mal habillée, je suis mal habillée, la capot va lui amener des robes et elle m'en a donné une. Et j'ai toujours dit à Simone que cette robe m'avait sauvé la vie. J'avais mauvais moral, j'avais envoyé papa et Gilbert dans les fours, croyant bien faire, monter sur les camions, ils m'ont écouté et je croyais bien faire, ils ne seraient pas fatigués. Et mon neveu avait 14 ans et j'apprends que tous ceux qui ont moins de 15 ans sont tués aussi. Donc je pense que je suis toute seule et... Du coup, ben, je ne suis plus rien.
Simone Jacob, que les Français connaissent sous le nom de Simone Veil, évidemment, Ginette Colinca. On l'entend au micro, vous avez beaucoup d'humour. Il y en a dans ce récit aussi, quand Katell Müller vous demande de raconter, vous dites, vous savez, j'ai cassé des rochers, j'ai construit des bâtiments, je pourrais construire votre maison également, je serais capable de le faire aujourd'hui. Vous avez vu le pire de l'humanité, Ginette Colinca.
Ouais, je crois.
Est-ce que vous savez ce qui vous a donné la force de vivre après ça ? La vie vaut-elle d'être vécue ?
Non, non, c'est pas ce que les gens me disent, courage, volonté. Non, moi j'ai qu'un seul mot, la chance. Quand on est... J'étais plus rien, j'étais un robot. Eh bien, un robot, ça ne réfléchit pas. Donc, je n'ai pas de volonté. Non. J'ai eu de la chance.
Oui, mais après. Après.
Ah, après. Ouais. Après.
La vie vaut-elle d'être vécue quand vous avez vu ce
le retour
dont l'homme est capable.
Ah, oui, et bien maintenant, on me voit souriante, on me voit. Oui, j'ai pas le droit d'être. Maintenant, j'ai vu tellement de choses affreuses que pour moi, maintenant, tout est formidable, tout est bien. Voilà. Même si votre collègue a toujours nous raconte que des choses tristes à la télé, tout ça.
C'est vrai.
Pour moi, non. tout est bien. Tout est bien.
Vous suivez l'actualité, vous écoutez la radio, vous allez sur Internet voir les nouvelles.
Je vais franchement, non. Mais ça m'arrive quand même d'appuyer sur la télé. Je peux vous dire que je me réveille, j'appuie sur le bouton. Mais quand c'est les actualités, tout ça, je regarde. Mais je regarde d'un. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Alors, moi, je suis aux Invalides, je suis dans un cocon. On est bien, tout le monde est gentil, tout le monde est souriant. Alors, je ne veux pas ça. On me raconte ce qui se passe. Mais comme je crois que ce que je vois, parce que peut-être aussi, il y a des gens qui sont, c'est sûr, dans la misère. Et on ne peut pas avoir sur ses épaules toute la misère du monde.
Beaucoup de mauvaises nouvelles, c'est vrai, Ginette Colinca, c'est pourquoi on avait besoin aujourd'hui de votre force dans ce 13-14 et de ce témoignage. Ginette Colinca contre la haine avec Katell Müller, c'est aux éditions de La Sirène. Ce livre qui sort, lisez-le, offrez-le également. Merci infiniment Ginette Colinca d'avoir été avec nous aujourd'hui, invitée de ce 13-14 de France Inter. On a beaucoup de messages pour vous, j'ai pas le temps de tous vous les lire maintenant, des messages de remerciement évidemment. 13h46 sur Inter. Tout autre chose et de la légèreté dans notre feuilleton consacré à cette comédie musicale. Radio Michel, spectacle sur une radio du futur qui ne joue que des titres de chanteurs. Prénommée Michel, la troupe répète depuis plusieurs années. Elle vient d'être rejointe par un petit nouveau, Alexandre Rosier. Il a découvert la comédie musicale il y a quelques mois.
Moi, c'est Michel, je m'occupe de toute la technique. La réalisation des émissions, c'est moi.
Mais vous n'avez pas de régie automatique ?
Du coup, Alexandre, le seul moment où tu le regardes pas, c'est le moment où tu lui parles. Vous n'avez pas de régie automatique, tu le fais vers nous.
C'est vrai, ouais.
Alors que le moment où tu lui poses la question, c'est vraiment vers lui.
La question, en fait, elle est très naturelle. C'est
Ah, mais vous n'avez pas de régie automatique ?
Ouais, tu vois, c'est pas que ça te surprend.
Ok, d'accord.
C'est
vous n'avez pas de régie automatique ?
Bah, tu vois, c'est...
Ouais, il n'y a pas de wifi.
Oh. Ouais,
Ah, vous n'avez pas de wifi.
Ah, bah voilà.
Ah, vous n'avez pas de régie automatique.
Je m'appelle Alexandre Rosier et je joue le rôle de Martin dans Radio Michel.
Merde, le stagiaire.
Bonjour.
Depuis quand vous êtes là, vous ?
Depuis le début du spectacle.
Ok. Bon, Martin, c'est ça ? Venez avec moi. Et les autres, tous à vos postes.
En fait, j'ai participé à un casting en mai 2025 pour reprendre le rôle de Martin qui était joué auparavant par Amaury. Et j'ai eu la chance d'être choisi. J'ai du coup tout découvert, tout appris entre mai et septembre, la première. C'est très très court en fait, d'autant plus que c'est ma première expérience en comédie musicale. Donc oui, c'était un sacré challenge, mais on est une équipe soudée et j'ai été très soutenu. Par tout le monde.
Vous êtes bien disponible pour 2 mois ?
Oui, madame.
À temps plein ?
Oui, madame.
C'est un bon début. Et bien, allez-y, parlez-moi un peu de vous. C'est chouette.
Ça a changé les stagiaires.
Ils passent tout l'automne à creuser des
s'entraide. Il n'y a pas que le metteur en scène qui me donne des conseils, même les autres comédiennes ou comédiens me disent « Ah ben là, tu devrais peut-être le faire comme ça, on en parle. » Et oui, mais dès le premier jour, j'ai été mis à l'aise et c'est chaleureux, c'est plus qu'un rendez-vous de travail pour moi et c'est vraiment appréciable. Je rêvais de faire ça un jour, j'ai jamais osé en fait, mais tout comme le théâtre à la base où j'avais pas osé pendant des années et puis quand je m'y suis mis, j'ai tout de suite adoré. Donc là, c'était vraiment une, je le redis, une chance d'avoir été choisi. C'est un grand bonheur quoi, à chaque fois, c'est, ouais, c'est ça.
On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça te gêne de dire.
Même si je chante beaucoup, c'est pas trop le style de chanson que je chante habituellement. Donc bah après, il y a des grands classiques que je connaissais déjà, mais d'autres que j'ai découvert avec plaisir. C'était vraiment le truc le plus challenge. Et puis après, comme je n'avais jamais chanté en jouant, ça aussi, ça a été un challenge. Ce qui est important aussi, c'est de donner les bonnes intentions à certaines chansons pour qu'elles soient vraiment ancrées dans l'histoire et qu'elles servent l'histoire, alors qu'initialement, tu les aurais pas forcément chantées comme ça ou ressenties comme ça. Dès le début, dès que j'ai su que j'étais pris, j'ai eu le texte très rapidement, donc je me suis tout de suite mis dedans. Après, je crois que je suis un de ceux qui a le moins de texte, donc ça, c'était pas trop compliqué. Le plus compliqué, donc, c'était les chansons. Certaines chansons qui sont très challengeantes parce que ça monte assez haut, mais c'est vraiment du travail au quotidien. De toute façon, c'est un sport et ça doit se faire au quotidien.
Et ce spectacle Radio Michel sera donné à Paris à la Scène Parisienne mardi prochain, le 27, la suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mercredi 13h50, le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Éric, vous avez revisité les années qui se terminent par un 6 comme 2026 et vous avez été surpris.
Oui, c'est la France, cher Jérôme, ou plutôt, vous avez raison, c'était la France. Car aujourd'hui, cette chronique est une petite machine à remonter le temps, dont la martingale est le chiffre 6, encore tout neuf, qui est d'ailleurs un 9 à l'envers, mais ne nous embrouillons pas, et qui marque notre millésime. Ma question est toute simple, quels événements survenus pendant une année terminant par 6 nous ont-ils marqués? Alors bien sûr, l'été 36, le Front populaire incarné par Léon Blum, 1946, la première année de l'après-guerre, avec encore les jours sans et les jours avec, je parle des tickets de rationnement. Quant à l'année 1956, elle m'évoque la pénible expédition de Suez, où la France, alliée à la Grande-Bretagne, se ridiculisa en occupant le canal après une offensive de l'armée israélienne. Washington et Moscou sifflèrent la fin de la partie et on rentra penaud à la maison.
Est-ce qu'un passé plus récent nous parle aussi d'aujourd'hui ?
66 ne fut pas une année érotique mais atomique avec l'explosion de la première bombe du genre dans le Pacifique en présence du général de Gaulle qui par ailleurs fit sortir la France du commandement de l'OTAN. J'ajoute une autre sortie en 1966, la grande vadrouille avec Bourvil et De Funès, inoubliable. J'ai une excuse, j'avais 6 ans. On ne parlait pas encore de réchauffement climatique en 1976 mais la grande sécheresse de l'été marqua profondément les esprits. 1986, c'est l'année de la première cohabitation avec un Chirac lorgnant déjà sur le fauteuil de Mitterrand qui, 2 ans plus tard, le remit à sa place de Premier ministre lors d'un fameux duel télévisé. Je passe vite sur 2006, même si Dominique de Villepin dut enterrer son fameux CPE et que Nicolas Sarkozy prit date pour l'Élysée conquis l'année suivante, pour atterrir en 2016, il y a tout juste 10 ans, Jérôme. Uh-huh. Souvenez-vous, François Fillon remporte la primaire de la droite et François Hollande renonce à se présenter à sa propre succession. Vous voyez, on ne sait jamais ce que le passé nous réserve.
Encore plus intéressant, 1926, il y a un siècle. Et que oui, dit l'oracle du temps?
Il y a 100 ans. Cette année-là, mourut le peintre Claude Monet et naquit un certain Valéry Giscard d'Estaing. Edgar Morin, qui ne perd jamais de temps, avait déjà 5 ans. Événement notable, politique, ce fut le crépuscule du cartel des gauches. Alors, le cartel des gauches, Quesaco, Jérôme, ce n'était pas une pendule, même si nous parlons du temps passé, mais une coalition déjà. 50 ou plutôt 5 nuances de gauche, composées entre autres de radicaux sociaux, de républicains socialistes, de socialistes indépendants et bien sûr de vrais socialistes d'antan, estampillés SFIO. Le cartel vola en éclats sur la politique financière. Les socialistes, figurez-vous, voulaient pour rembourser la dette de l'État déjà élevée que soit adopté un impôt sur le capital, ce que refusèrent la droite et une partie des radicaux. Cet échec rappela aux affaires un certain Raymond Poincaré qui avait sauvé le franc 2 ans plus tôt et une coalition nationale dite Union républicaine gouverna sans les communistes sans les socialistes et sans les nationalistes dits intransigeants. Vous voyez, la preuve par 6 est faite que le temps est un éternel recommencement.
Vous, c'est pas le 6, mais le 1. Oui. Eric, à la une cette semaine.
Et je vous l'avais promis la semaine passée, voici le Groenland servi on the rock, transpercé par la griffe de l'aigle américain. Comment Trump veut prendre le Groenland, c'est le titre. Le géopolitologue Michel Fouché nous dit même comment il va prendre le Groenland. Un numéro qui fait froid et pas seulement dans le dos, avec encore une carte très claire à afficher sur vos murs, sur ce qu'il vous en reste, évidemment, cher Jérôme.
Non, là, c'est à désespérer. Merci Eric Fotorino du 1 Hebdo. Chaque mercredi, de C'est la France à C'est une chanson. C'est l'artiste Vincent Malone que vous recevez aujourd'hui, Frédéric.
Vincent Malone, qui est à la fois écrivain, publicitaire, trompettiste, pianiste, guitariste et chanteur pour enfants. Il s'est autoproclamé roi des papas, personnage qu'il incarne depuis 35 ans. Et c'est André Rimbourg, plus connu sous le nom de Bourvil, qu'il a souhaité qu'on écoute.
Bourvil fait partie des gens qui m'aident à vivre. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent à faire passer le rire avant le sérieux. C'est comme les gens qui te font une tape sur l'épaule avant de te faire une piqûre. Ces gens-là, ils m'aident à supporter le reste. Donc Bourvil, il est au centre. Il est au centre de ce qui m'intéresse. C'est d'avoir énormément de talent, comme André Bourvil, et puis tout à coup dire, ben non, on va pas faire des trucs que personne comprend, j'ai pas forcément envie qu'on voit mon moi intérieur, etc. Non, je vais raconter des bêtises, je vais me mettre en danger. Je sais pas, c'est cette générosité des gens qui ont des malheurs, comme vous, comme moi, puis qui tout à coup... Ben voilà, ils vous emmerdent pas avec ça, ils vous font rire simplement.
Vous vous riez beaucoup ?
Ah non, pas du tout. Non, je suis extrêmement chiant, mais il se trouve que j'ai la faculté justement un peu venturesque, là si on se réfère à Lino Ventura, d'avoir une stature qui fait que quand je dis des bêtises, j'ai l'air tellement lourd dans cette bêtise que ça fait rire.
Elle n'avait pas de parents, puisque elle était orpheline, comme elle n'avait pas d'argent. Ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils ne l'avaient pas reconnue. Si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons ? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non. C'est ce qui est triste.
C'est triste ça, quand même de ne pas reconnaître son enfant. Il faut pas être physionomiste. Il me semble que si j'avais un enfant, moi je le reconnaîtrais. À condition qu'il me ressemble, naturellement.
Alors, cette chanson, Frédéric, s'appelle Les Crayons, écrite par Bourvil en 45.
Et c'est cette chanson qui a lancé sa carrière d'artiste de music-hall. Une chanson que Vincent Malone trouve hilarante.
Ce qu'elle a de drôle, déjà, c'est son aspect Me Too, tout à fait tragique, parce qu'on a une jeune femme qui, finalement, vend des crayons dans la rue qu'elle n'arrive pas à vendre, et des cartes postales, et qui finit par se faire engrosser par un affreux Jojo... qui lui fait un enfant, qui se retrouve elle-même à vendre des crayons et des cartes postales. Et puis aussi, c'est drôle parce que, justement, ces chansons parodiques-là se reposent toujours sur des drames. C'est drôle parce que c'est triste, en fait.
C'est drôle parce qu'on peut sourire d'une situation catastrophique, mais qui, racontée de cette manière-là, est plutôt tendre.
Mais c'est plus que tendre. Il n'y a que les grands sensibles et les vrais empathiques qui peuvent être drôles. Ça marche pas autrement. Sinon, c'est du cynisme, c'est pas de la drôlerie. La drôlerie, c'est de l'empathie. Ce type-là nous a compris, quoi. Et pour moi, c'est un précepteur musical. C'est lui qui m'a appris la musique. On peut faire à la fois le petit bal perdu, un oranger, qui est un peu tristoun, même carrément glauque, et cette chanson. Ou alors le tango du haut où il est sourd, et c'est extrêmement drôle aussi. Parce que sa femme n'entend pas ce qu'il dit. Donc il dit, t'es sourde ou quoi?
Un marchand de crayons en gros lui dit, viens chez moi mon enfant, je t'en ferai voir des beaux, je ne te demanderai pas d'argent. Ce fut un drôle de marché.
Vous l'aimiez comme acteur également ?
Je l'aime tout court, voilà, j'aime tout court. Il y a des gens, on les aime tout court, voilà, je veux bien qu'ils soient mon père, mon frère, mon pote, mon prédécesseur dans l'au-delà, c'est parfait, voilà, alors s'ils pouvaient... m'attendre en chantant « Elle vendait les cartes postales », ça serait trop bien, t'imagines ? t'arrives, bienvenue. Elle va, des cartes postales, superbe.
Enfin, elle avait un enfant, voilà. Elle avait bonne mine. Si seulement elle avait une mine de crayon. Mais non, mais c'est ça qui l'a minée. Alors, quand elle a vu ça, ben, elle a abandonné son enfant.
Là, on est dans la parodie de la chanson réaliste.
Oui, c'est ça. Ben, la chanson réaliste, déjà, de base, ça ressemble à des parodies, mais c'est exactement ce qui me plaît. Donner une vision différente des drames qu'on nous présente. C'est de la parodie de la vie, c'est un déguisement, c'est une élégance qui fait qu'on peut supporter un tas de choses, quoi.
Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ce qui est triste.
Les crayons, Bourville, c'était Frédéric, le choix de Vincent Malone.
Vincent Malone, artiste multicarte qui anime et produit notamment le podcast Community Manager.
Merci Frédéric et à demain. À suivre la Terre au carré, Mathieu Vidard se demande si les volcans d'Auvergne pourraient un jour se réveiller.